Deuxième son au menu de la tribune de la presse d'aujourd'hui. Nous commencerons par la province orientale où, dans une déclaration faite lundi dernier à Kisangani, les députés provinciaux élus de l'Ituri affirment que la province orientale a cessé d'exister depuis le week-end dernier à la fin de son processus de démembrement. Et mardi dernier, les députés provinciaux élus de la Tchopo ont également fait la même déclaration. Ensuite, nous parlerons aussi du sit-in d'une quarantaine de nouveaux professeurs qui a été brutalement dispersé lundi dernier devant la primature ici à Kinshasa. Ces enseignants réclament la régularisation de leur statut de professeur et de leur situation salariale. Et pour en parler, je reçois Fidel Moussangou, il est journaliste et coordonnateur hors journal Le Phare. Bonsoir, confrère.
Bonsoir, confrère.
Jean-Pierre Kayembe, bonsoir, confrère.
Bonsoir, Alain. Bonsoir au grand frère Fidel. Et bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, un média émettant à Kinshasa. Charles Kipingani, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes... Merci beaucoup, vous êtes éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi dans la province du Congo central. Bienvenue à tous dans votre émission. Nous allons commencer par voir comment la presse quinoise a traité plusieurs sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Avec vous, Kéline Kouté.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine dans la presse quinoise. Commençons par la session extraordinaire au Parlement, répartition de sièges au local, Parlement, machine bloquée. C'est la manchette du quotidien La Prospérité. Visiblement, note le journal, la session parlementaire extraordinaire de juillet 2015 a du mal à prendre la vitesse exponentielle. À l'Assemblée nationale, en l'absence d'Aubin Minaku, en mission en Europe, Charles Mando Simba, premier vice-président, n'a pas osé prendre l'initiative, conclut le tabloïd. Ce que corrobore la tempête d'eau tropique sous le titre « Session extraordinaire au Parlement, une semaine entière sans plénière ». Aussi, le Phare enseigne-t-il à propos de la loi sur la répartition de sièges que l'opposition réaffirme le boycott. À l'antipode, Forum des As entrevoit le piège de l'opposition. Paix durable dans le Grand Lac, Saïd Djinit s'arrête à mi-chemin de la solution. C'est ce que fait savoir la tempête de tropique et sur quoi embraille Forum des As qui rapporte que Saïd Djinit préconise le retour des combattants Hutus au Rwanda. En outre, le tabloïd Le Phare signale la frontière congolo-ougandaise fermée à Arou et estime que Kampala veut asphyxier la province orientale. Ce qui fait dire à la référence plus que les autorités douanières sont aux abois à Arou. Nouvelle province, ça passe ou ça casse. À la mi-août 2015, titre Le Phare. L'installation des 21 nouvelles provinces de la RDC pourrait intervenir à compter de la mi-août 2015 à défaut du 30 juin 2015, comme annoncé précédemment, rapporte Le Phare. Parlons diplomatie enfin, les nouveaux ambassadeurs de la RDC dévoilés ainsi donc selon le tabloïd de la capitale de la RDC sont nommés ambassadeurs de la RDC à l'étranger, Jean-Charles Okoto en Chine, Symphorien Mutombo Baka Fwasenda au Brésil, Henri Manganyayanga au Maroc, Honoré Tati au Tchad, René Iloumé au Soudan du Sud et enfin Zernon Mukongo à l'ONU.
Merci Kevin Kouté, Fidel Moussangou, vous êtes journaliste et coordonnateur au journal Le Phare. La session extraordinaire à l'Assemblée nationale a encore beaucoup de mal à décoller.
Vraiment, on est en train de vouloir faire faire aux gens des choses qui ne peuvent pas se faire, notamment la répartition des sièges. La répartition des sièges dépend du nombre des habitants. Pour dire, nous avons autant d'habitants, et pour avoir un coefficient national, pour dire autant d'habitants, un siège, autant de sièges, ainsi de suite. Comme ça, on aura des représentants respectifs du peuple congolais. Parce qu'avec votre recensement qui date de l'année 1970, maintenant on fait des approximations, vous aurez à la province de l'Équateur, la preuve, nous avons 120 députés provinciaux. Mais ils représentent quoi? Les arbres. Parce que l'Équateur, il n'est pas peuplé. C'est la forêt. Et la forêt, même les pygmées sont limitées. Vous voyez? Et regardez Mandaka. Mandaka n'a pas 1 million d'habitants. À peine 300, 400 000 habitants. C'est la province la moins peuplée.
Et donc vous pensez que ce blocage risque de persister?
C'est un blocage pour le glissement, parce que le régime ici veut à tout prix glisser. Il cherche par tous les moyens un blocage. Bon, on n'a pas de siège, on ne fait pas d'élection. Il n'y a que ça. Ils savent très bien. Mais en 2006, on a fait les élections. 2011, malgré le scandale électoral qu'il y a eu. Alors, qu'on continue. Ce qu'il faut faire, c'est les fichiers électoraux. Donc, enregistrer les nouveaux majeurs. Et l'arrangement peut prendre 3 mois seulement.
Actualiser le fichier électoral.
Et puis attention, le contrôle aussi, avec l'aide des experts internationaux. Parce que sinon, il y a directement. Il y avait des doublons. Donc s'il faut commencer à vérifier le fichier électoral et ajouter d'autres. On peut avoir 5 à 6 millions de nouveaux électeurs. Là, on peut faire les élections. Maintenant, le rôle de la répartition des sièges reviendra au prochain pouvoir qui fera le recensement général et on pourra avoir un coefficient.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, un média émettant à Kinshasa, un mot également sur la session extraordinaire qui bat encore de l'aile.
Oui, je crois que par rapport à ce que l'aîné fidèle a dit tout à l'heure, je me pose une question. Si on veut glisser, mais qui veut glisser en fait? Parce que cette session extraordinaire a été convoquée sur demande du chef de l'État qui veut à ce que l'on fasse avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante manque un certain nombre de lois et on voudrait que cette session puisse voter notamment cette loi sur la répartition des sièges afin que la CENI ait l'arsenal juridique qu'il lui faut pour pouvoir organiser les élections et tenir les délais comme la Constitution le dit. Alors aujourd'hui, vous avez une certaine opposition qui ne veut pas participer à cette session, estimant que c'est une session où les glissements vont se jouer. Vous avez deux avis, deux réactions et consorts. Moi, je crois que face à l'urgence et face au temps qui nous reste, permettons à la commission électorale d'avoir cet arsenal juridique qu'il lui faut pour la tenue des prochaines élections. Laissons de côté ces réactions un peu plus politiques parce que aujourd'hui on est face à la réalité. La réalité c'est que tous on aspire d'aller aux élections et permettons à la commission électorale d'en avoir les moyens qu'il lui faut.
Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui parait à Matadi dans la province du Congo central. Quelle est l'actualité à Matadi?
Oui, la vérité c'est que la province du Congo central est pour la première fois dans son histoire à abriter les activités de l'indépendance, Donc nous avons servi les cadres à la capitale de la RDC le 31. Et après cela, les gens continuent à vivre ou à vibrer dans cette ambiance de la tenue la fois dernière de cette activité qui a dans la ville de Portière. Et alors, c'était un sujet de joie, et puis, il restait à intéresser vraiment tout le monde. Non seulement les Mekongs, comme je l'ai dit, mais aussi ceux qui connaissent l'histoire physique, même si d'autres provinces ont parfois eu la chance d'abriter cette grande activité pays, mais au moins pour la province du Congo central, c'est pour la première fois. Donc, continue encore à devenir notre actualité. Et puis, peut-être au niveau de la CENI, où il y a encore, ce n'est pas une rumeur, mais qui est devenu un dossier maintenant entre le maître, de la justice sur les listes électorales, qu'on appellerait des doublons, ou sinon des candidats indisciplinés, qu'il faut placer ces mots, qui ont postulé en désordre. À Kazangou, le candidat, à Matadi, des étudiants, à Bandangou, le étudiant, à Kinshasa, des étudiants, c'est encore ça qui continue encore à venir là.
Alors, pour revenir à l'actualité nationale, Charles Kipingani, il y a des nouveaux ambassadeurs qui ont été désignés. À votre avis, est-ce que ça pourrait redynamiser la diplomatie congolaise?
Bon, la diplomatie congolaise ne peut pas être redynamisée, à mon avis, par le changement d'ambassade. On a toujours dit que c'est une activité tout à fait quotidienne au niveau de la présidence de la République parce que c'est ça la conduite de la politique de la diplomatie au niveau de pays. Mais ce qui devait en principe intéresser les gens, c'est que lorsqu'on change d'ambassadeur, et de voir beaucoup plus l'impact dans ces relations diplomatiques, dans les vécu quotidiens des durs de la population. Et lorsque les ambassadeurs sont changés à longueur des années ou de mois, des journées, et que dans les relations diplomatiques, cela ne profite pratiquement pas à la population ou à la population, je crois que cela ne peut pas certainement avoir un impact assez visible.
Merci Charles. Fidèle Moussangou, un mot également sur ces nouveaux ambassadeurs qui ont été désignés.
Non, je connais la plupart d'entre eux. Par exemple, je connais Mutombo
Kafasinda,
c'est un homme.
Plusieurs fois ministre.
Ministre, vice-premier ministre, et puis gouverneur de la province du Kassai Occidental. Je connais personnellement en famille. Je connais Charles Okoto, qui est un ami personnel. On s'est connu avant, on se connaît au niveau de l'université. Et puis,
alors, est-ce que ça peut redynamiser la diplomatie?
La redynamisation n'est pas une question de nomination. La redynamisation, c'est une question de politique. Diplomatique qu'on veut insouffler. Le Congo revient sur la scène, ça veut dire nous payons tous nos arriérés au niveau des organismes internationaux, nous mettons nos gens pour surveiller, et parce que le Congo c'est une puissance. Alors ça c'est une chose. Mais alors il faut aussi avoir des moyens. Il ne faut pas qu'il y ait des ambassades où les gens ne sont pas payés. Il faut qu'il y ait des salaires convenables pour ne pas être mendiant. Comme à l'époque, Mobutu avait oublié cette affaire là-bas, nos diplomates étaient vraiment clochardisés. Là, c'est une bonne chose. Et l'argent, il y en a. Et il faut maintenant savoir aussi comment insouffler. Par exemple, Mutombo Kafou, c'est un juriste, un avocat. On l'envoie au Brésil. Maintenant, il doit chercher les marchés. Marché pour les produits congolais, et les marchés pour les produits brésiliens. Et ça veut dire, et puis, imiter l'exemple brésilien. Au Brésil, on fabrique les véhicules. Nous avions à l'époque aussi des usines de montage de véhicules. On en avait 5. Renault, Peugeot, Chevrolet, Fiat, Coincolet, là d'ici. Alors, il faut revenir à ces éléments-là grâce à Mutombo Kafou, l'exemple brésilien. Ensuite, il y a le football. Et le Brésil et le Congo ont une carrière. Rappelez-vous, Pelé a joué à Kinshasa. Pelé est venu, il a été battu avec Gento et compagnie. Donc, les Brésiliens ont gardé un souvenir de Kinshasa, des Congolais pour le football. Et n'oubliez pas que nous sommes la première nation noire à aller à la Coupe du Monde.
Jean-Pierre Kayembe, un mot également sur la diplomatie congolaise.
Oui, je crois qu'au-delà de la politique étrangère du pays, je crois savoir que les atouts personnels comptent aussi. Par exemple, l'ambassadeur Okoto, on sait ce qu'il vaut. Mutombo Kafasinda, je crois qu'il est à ses débuts pour une carrière diplomatique, envoyé dans un pays comme le Brésil ou encore l'autre qui est en Chine. Et quand on sait les relations diplomatiques aujourd'hui, les enjeux qu'il y a entre la Chine, la RDC ou encore le Brésil et bien notre pays. Et donc je crois qu'au-delà de ça, ils vont pouvoir vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo et ses atouts. Je crois que c'est une mesure qu'on ne peut que saluer à ce stade.
Nous allons passer à notre premier thème de ce soir. En province orientale, les députés provinciaux élus de l'Ituri estiment que la province orientale a cessé d'exister depuis le week-end dernier, à la fin de son processus de démembrement. Dans une déclaration faite lundi dernier à Kisangani, ils appellent la direction générale des recettes de la province orientale, DGRPO, agence de l'Ituri, de ne plus rendre compte à Kisangani, chef-lieu de la province orientale. Déclaration que condamne le gouverneur Jean Bamanissa. Jean-Paul Bassila pour le reportage.
Hier lundi, les députés provinciaux de l'Ituri ont annoncé l'ouverture prochaine à Bounia de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de leur nouvelle province, issue de la province orientale démembrée. Selon eux, non seulement la province orientale n'existait plus, mais ils soupçonnent aussi les gouvernements de la province orientale démembrée des pillages des ressources de l'Ituri.
Avec le directeur de la DGRP Ituri, à suspendre l'envoi de tout rapport financier à la province orientale démembrée jusqu'à l'installation de la province de l'Ituri. Pas une rébellion. Nous avons pris que des précautions pour éviter le pillage des ressources de l'Ituri parce qu'il y a acharnement du gouvernement de l'ancien province orientale sur l'Ituri.
Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de la province orientale, n'approuve pas la démarche des élus provinciaux. Il les invite au calme et au respect de la légalité.
Passer ce type de message, c'est assez irresponsable. Le député doit connaître la loi, il doit rester légaliste. Les nouvelles provinces vont se mettre en place, mais elles ne vont pas se mettre en place dans le désordre.
Exceptionnellement pour la DGRPO, le gouverneur Jean Bamanissa estime que son démembrement devra aller lentement à Bounia. Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Merci Jean-Paul Bassila. Dans le même sens, la coordination des députés provinciaux de la Tchopo a mardi également, dans une déclaration, affirmé qu'elle n'est jurée que par la province constitutionnelle de la Tchopo. À cette même occasion, ces députés suspendent même la perception de toutes les taxes provinciales recouvrées par la DGRPO sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Fidel Moussangou, plusieurs observateurs estiment qu'il y a une grande confusion concernant le démembrement des provinces. Partagez-vous ce sentiment?
Non, nous avons ici affaire à un coup d'État. Il faut vite que la police se saisisse de ces messieurs-là et les envoie à la haute cour pour qu'ils soient condamnés fermement. C'est pas ça le démembrement. Le projet est là. mais il y a des questions fondamentales qui sont posées.
Il y a des préalables.
Il y a des préalables. Un, d'abord, oui, à Bounia, on peut mettre une province, mais moi, je connais Bounia. Où le gouvernement va siéger ça? Et puis, en même temps, quelles seront les ressources propres pour la province, pour payer le nouveau cadre politique? On ne décrète pas une province. Évidemment, l'erreur revient à Kabila, qui a voulu en faire aussi un problème. Au lieu de dire que ça va aller tout doucement. Le démembrement du Congo peut prendre 20 ans. Moi, je ne serai peut-être pas là-bas. Si j'ai la chance d'être là, je vais dire, monsieur, je vous avais dit 20 ans. Mobutu l'a essayé avec le Kivu. Mais il avait juste fait le découpage et il est resté là-bas. Pas politique. Il y avait un gouverneur, il est resté là-bas. Il a compris les démarches. Parce que lui, Mobutu, c'était un État fortement centralisé. Il avait dit, il va aller pas à pas. Et le professeur Vunduawo, qui est spécialiste en décentralisation, lui avait dit, Mobutu a démembré, il a arrêté. Maintenant, il faut aller méthodiquement. Vous savez, il y a des problèmes de population. Je vois par exemple le Katanga. C'est prévu 4 provinces. Mais aller au Katanga, parce que je me dis Katanga, les gens disent, on va aller doucement. Parce que vous allez créer des problèmes sociaux graves. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, je prends par exemple une partie du Katanga. Il y a des parties qui sont encore très très pauvres, il n'y a rien. Alors vous voulez maintenant créer ce qu'on appelle des ressentiments, des frustrations dans les populations qui vont se retrouver démunies parce que ils ne sont plus de cette province là-bas.
Oui, mais Fidel Moussangou, on est dans un processus qui est en train de suivre son cours normal.
Ici, par exemple, quand il parle, voilà, j'ai vu qu'il va, il va demander qu'on ne puisse pas payer les taxes. C'était plus tard. Arrêté. Le procureur doit l'arrêter immédiatement et le faire condamner. Ça, c'est une rébellion. Il faut dire, on va doucement. Quand on aura rempli toutes les conditions, ça va aller de soi-même. Il ne faut pas qu'on s'abrusque. Il y a des messieurs qui rêvent de devenir gouverneur ou ministre. Parce qu'il n'ayant pas été gouverneur à la place de Bamanista, il rêve de se venger. Il n'y a que ça. Et ça peut créer des troubles sociaux graves, des guerres interethniques. Alors, le Congo va éclater à cause de quelques illuminés. Il faut arrêter cette affaire là-bas. On a dit qu'il fallait doucement. Quand vous aurez rempli toutes les conditions, on va découper. Et quand les populations seront d'accord, parce qu'on ne découpe pas les provinces, on découpe les peuples. Quand ils seront d'accord.
Jean-Pierre Kayembe, c'est un coup d'État, l'annonce faite par les députés provinciaux de l'Ituri, de la Tshopo, et l'erreur revient à Kabila, selon Fidel Moussangou. Il fallait aller progressivement dans ce processus.
Je ne vois pas exactement où se situe cette erreur de Kabila, parce que cette volonté de démembrer les provinces n'est pas une affaire de Kabila. Ce sont les Congolais qui l'ont voulu lors du référendum. Donc ici, Kabila et son gouvernement ne font que respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Alors, par rapport à ce qui est en train de se faire, c'est vrai, il fallait y aller progressivement. Mais aujourd'hui, vous avez des commissions qui ont été mises en place pour travailler sur les provinces à démembrer. Commissions qui, pour certaines provinces, ont déjà déposé le rapport, cas notamment de la province orientale. Donc, je ne comprends pas la précipitation qu'il y a en province orientale. C'est au-delà d'être un coup d'État, c'est une rébellion. Ça ne tient pas la route. Eux qui sont censés respecter les lois parce que ils sont là pour légiférer, ils sont censés bien interpréter ces lois. On n'a pas dit que de passer le 30 juin, les provinces à démembrer, même si les commissions n'ont pas encore fini totalement leur travail, les deviennent automatiquement. Non, ce n'est pas ce qui est dit. On a déposé les rapports, mais il faut attendre la suite parce qu'il y a des étapes, il faut y aller.
Il faudrait que ce rapport soit présenté à l'Assemblée provinciale.
Mais je me demande qui a signé l'acte de décès de l'ex-province orientale selon ses députés. Donc ça ne tient pas la route. Et aujourd'hui, par exemple, à Isiro, au Touélé, ça fait pratiquement 6 mois que les contribuables n'ont plus payé leurs impôts. Mais attendez. Ces députés, avec quoi est-ce qu'ils seront payés? Ça ne tient pas. Au contraire, parce que, ici, si je comprends le problème, c'est que il n'y a pas une redistribution des recettes, des ressources. J'apprends même que pour ce qui est de la route où elle est, il y aurait eu un financement du gouvernement central pour réhabiliter la route Isiro et consorts, et puis ces fonds seraient détournés à un niveau et tout ça. Mais c'est pas ça.
Bref,
la formule
en même,
qu'il faut
il faudrait
utiliser.
Attendre.
Il faut attendre. Il faut attendre, comme Fidel l'a dit, ces députés, normalement, ils doivent répondre de l'exact, ces appels au boycott, appel à la révolte, à l'incivisme, ça ne tient pas.
Merci. Charles Kipingani, quelle est votre analyse par rapport à cet aspect? Ne faudrait-il pas donner raison à tous ceux qui estiment que ce processus est mal parti?
Merci Alain. Je pense que la question est au centre de débat dans notre pays aujourd'hui, non seulement en province orientale, mais bien sûr dans toutes les autres provinces. Vous avez entendu parler de cette crise qui commence à naître dans le chef bien avec la technologie. Mais écoutez, je pense que la première question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il existe une province de l'Ituri ou de la Tupou? Est-ce qu'il existe une assemblée provinciale de l'Ituri ou de la Tupou? On va envoyer, on va retenir des recettes destinées à l'Ituri ou à la Tupou pour être gérées par quel gouverneur, pour être contrôlées par quelle assemblée provinciale. Je pense qu'amener la population à ce genre de réflexion, c'est de causer même du tort. C'est d'empêcher même cette population de comprendre le danger. Alors, il faut vraiment préciser qu'il n'existe pas jusque-là le des provinces. Et la précipitation, voulais-je dire, des députés jusqu'ici, qui représentent la province orientale, n'a rien à voir au moment où ils n'ont pas de raison qui peuvent grandir pour justifier l'affectation de ces recettes qui, du reste, ne pouvaient pas être contrôlées par les élus de la province. Alors, et aussi, j'aimerais un peu dévancer par rapport à quelque chose. Ce sont en principe des infrastructures qui devaient précéder les démembrements parce qu'il s'agit de cette question. Mais lorsque vous voulez mettre la chair avant le bœuf, il faut vous attendre à ce genre d'agitation. Mais je crois que les députés provinciaux, même s'ils veulent défendre, soit dans les intérêts de leur population, de leur circonscription électorale respective, ils doivent le faire en respectant la loi. Aujourd'hui, on a la province orientale, on ne parle pas de la province et des Touris et de la Tchouri. À ce sujet, ils doivent revenir à la raison pour penser que l'idée est là. Ils doivent attendre le moment venu. Peut-être qu'ils vont s'agiter comme ils sont en train de partir. Ils se disent, bon, si on est en train de partir, laissez-nous quand même montrer qu'on est fort, qu'on peut se battre pour nos entités. Mais je crois que ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut se battre.
Charles.
On n'a pas encore un gouverneur, donc ils doivent encore rester tranquilles jusqu'au moment venu, ils peuvent encore vendre leur salaire.
Charles, pensez-vous que la RDC est prête en ce moment à être démembrée?
Et c'est tout ce que je vais dire, Alain. Je dis que ce sont des infrastructures qui devaient précéder le démembrement. Aujourd'hui, vous venez en province du Congo central, qui n'a pas heureusement connu cette situation de démembrement. Et vous allez à Mwanda qui est devenu une ville. Est-ce que Mwanda a des bâtiments qui peuvent abriter la mairie? Vous allez à Tela, vous venez à Kisantou, Mbandangou, Kimpese. Mbandangou, on peut encore comprendre parce que c'est une ancienne entité où les Belges sont passés. Mais Kimpese qui doit être appelée une ville, la ville de Bangou. Louozi qui doit être appelée une ville. Est-ce qu'il y a des infrastructures nécessaires pour et ces entités deviennent des villes.
Et donc, en un mot, la RDC n'est pas prête.
Non, c'est une vaste blague. La RDC n'est pas encore prête à faire ce démembrement, mais j'aimerais quand même préciser que...
Très rapidement.
Il faut parler de retards, de sinon du temps qu'il faut prendre, ce n'est pas une question de 10 ans. Mais si on avait cette question qui était déjà sur la table de nos dirigeants, de nos gouvernants, je crois qu'ils auraient dû prendre toutes les choses qui s'imposent pour que cela puisse aboutir dans le bon sens que tout le monde trouve son intérêt.
Fidel Moussangou, faudrait-il freiner ce processus?
Écoutez, confrère, le démembrement du Congo a été d'abord fait brutalement en 1962. Nous nous sommes trouvés avec des provincettes où il y avait des gouverneurs qui siégeaient sous les arbres avec un vélo, avec un drapeau. Ici, moi j'ai petit, j'ai vu ça. J'ai même des cousins. Il y a des ministres qui siégeaient chez eux. Oui, alors, quand Mobutu arrive, il a cassé cette affaire. Tshisekedi est ministre de l'Intérieur, il a remis, je crois, la province à 8, 7, 9. Tshisekedi a dit non, il a demandé. Alors, maintenant, Mobutu est laissé sous le temps, et puis il est passé à 11. Et en passant à 11, le gouvernement central a difficile à nourrir les 11 provinces. Remarquez, la constitution actuelle parle de 40% de rétrocession. Ne l'a jamais fait. Faute des ressources. Mouzito l'a bien prouvé dans une étude qui est parue récemment. Et puis quand on parle au nom, on a décrété 26 provinces. Ça a commencé à San City. D'abord, à la conférence nationale, on a levé l'option. Mais on avait dit qu'il faut y réfléchir calmement. L'option a été levée. Même dans la constitution. N'oubliez pas que tous les articles de la constitution ne peuvent pas être exécutés. Il y a des articles qui sont là pour. Ils sont là, on attend. Les moyens pour le faire. C'est comme quand vous lisez le catéchisme. lisez les 10 commandements. On n'exécute pas tout.
Oui. On fait des efforts.
Bon, alors, mais qu'est-ce qui se passe? En 2006, si Kabila était conséquent parce qu'il a signé la constitution au mois de mars 2006, il devait commencer par démembrer. Pourquoi il ne l'a pas fait? En 2000, quand il est élu, pourquoi il ne l'a pas fait? En 2011, il est encore élu. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il fait ça maintenant, je dis, c'est sa faute et il sera comptable devant l'histoire. Il veut donner au Congo un cadeau empoisonné. En fait, qu'est-ce qu'il vise? Il faut le dire ouvertement. Il veut créer des troubles partout pour décréter l'état d'urgence et ne pas faire les élections.
Jean-Pierre Kayembe, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, pas du tout. C'est encore une forme de procès d'intention.
Une affirmation de trop.
Affirmation de trop, peut-être gratuite de la part de mon aîné.
Elle n'est pas, n'est-elle pas justifiée?
Vous savez, dans ce pays, on a des astuces qu'on développe à tout moment qu'on veut faire quelque chose. On vous regarde, mais on n'est pas prêt. Quand vous parlez d'élection locale, non, on n'est pas prêt. On n'a pas de budget, on n'a pas ceci. Quand vous parlez, quand est-ce qu'on sera prêt dans ce pays?
On a l'impression que le Congolais veut la chose et son contraire.
Non. Ici, oui, c'est ça justement l'impression qu'on a. Vous avez l'impression de vouloir une chose le matin, la renier l'après-midi, engager notre front le soir, avant de se redire, de se dédire la nuit. Donc, je crois que le processus va être progressif, petit à petit. L'oiseau finit par construire son nid, et donc laissons les choses aller. Comme disait un auteur du passé, on juge les maçons au pied du mur. Quand on arrivera au terme et que on comprendra que le processus ne s'est pas bien passé, eh bien, on va tirer toutes les leçons. Mais pour l'instant, laissons les choses se développer ou aller telles quelles, et on pourra juger plus tard, parce que on vous dira non, on n'a pas de ressources. Avec quoi voulez-vous que... Mais vous savez que ce processus est très important dans la mesure où il facilite cette proximité entre la population et les dirigeants. Aujourd'hui, si vous avez la grogne qu'il y a aujourd'hui à Ituri ou encore de l'autre côté du Siro, c'est parce que il n'y a pas une redistribution normale, équitable. Positive, équitable des ressources. Et si vous avez aujourd'hui un gouverneur à Otouéli, un gouverneur à Isiro ou encore à Bounia ou Ituri, et lui, il saura quoi faire pour développer les ressources naturelles qui sont dans sa juridiction, pouvoir attirer le partenaire et faire développer. Parce qu'aujourd'hui, le développement se retrouve concentré au niveau des chefs-lieux. Tout est concentré au niveau de Kisangani, tout est concentré au niveau de Kananga ou de Matadi. On ne sait pas aller déclencher le développement dans les coins et les coins. Et quand on aura ces gouverneurs qui seront, dans une certaine mesure, un peu plus proches de la base, il y aura une autre forme de développement que beaucoup ignorent aujourd'hui.
Voilà, alors ma dernière question pour clôturer sur ce premier thème. Charles Kipingani, il y a des priorités qui se bousculent, il y a les élections et le démembrement. Que faudrait-il faire en un mot?
Je dois vous avouer que maintenant là, nous sommes devant un blocage. Parce que les deux options sont importantes. Alors, on va penser d'élections et parler de démembrement. Les dirigeants qui sont élus aujourd'hui, qu'on va élire demain, auront du mal à gérer, ils vont gérer d'abord les entités. Parce que ce sont ces entités-là qui posent problème avec le démembrement, et c'est l'urgence qu'elles ont appelé à gérer. Donc, pourquoi moi je pense que la question prioritaire à cet instant, c'est le démembrement. Il faut faire des choses de manière assurée, de manière logique et normale, de façon que cela puisse apporter non la crise à la population, parce que à chaque moment qu'on veut passer à une option dans ce pays, que nous connaissons la crise. C'est pas bien. Quand nous voulons organiser une élection, cela doit être précisé des crises. Bon, maintenant, là, on parle de dialogue. Lorsque nous voulons organiser le démembrement, vous avez toujours des problèmes. Donc, nous risquons de retomber sur la mémoire de la conférence de Berlin qui a procédé, qui a permis à la rétraction des pays, des limites, des frontières qui n'intéressaient pas les originaires de ce pays.
Merci.
Les autochtones. Donc, c'est qu'à ce moment-là, il faut privilégier le démembrement et cela soit fait avec, je crois, à mon avis, même par consensus, que tout le monde soit conscient que je dois appartenir à tel ou tel district, à tel ou tel autre province, pour qu'au finish, nous puissions organiser des élections qui soient aussi acceptées, oui, acceptables par tout le monde, qui croient en leurs dirigeants.
Merci Charles. Fidèle Moussangou, des priorités qui se bousculent, les élections, le démembrement, l'un exclut-il l'autre?
Écoutez, je reviens à des éléments fondamentaux. Je donne un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Les baloubas du Kassa Oriental se sont réunis à l'hôtel Béatrice pour prendre acte du découpage, mais ils ont dit, nous allons tout faire pour récupérer les territoires des Nganajika et des Kamiji. Automatiquement, parce qu'ils ont dit, leur pauvreté a été réduite à des dimensions moins grandes que Kinshasa. C'est dit, non, c'est pas possible. Et juste une tribu, ils ont dit non. Nous, nous récupérons nos frères des Nganajika, ce sont des Baloubas aussi, et des Kamiji. Si cela est fait, c'est que la province de Lomami deviendra un point noir. Elle deviendra une province tribale, il n'y a que les Songhais. La province, le côté Sankuru, entre les Tétela de la forêt et de la savane, c'est la guerre pour les chevaliers de la province. Ceux de la savane disent, nous, on ne va pas à Lodja, parce que c'est pour les Tétela de la forêt. C'est la forêt, nous on n'ira pas à Lusambo. Au Lusambo, c'est un territoire occupé par des Baloubas. Vous voyez ? Et ils disent non, nous nous entrons alors, dans l'ancienne province du Sud Kassai, dans l'état autonome du Sud Kassai, créé par Kalonji Ditung à 60 ans. Donc au Kassai, on n'est pas d'accord avec le découpage. Voilà, in fine. Alors maintenant, si au Kassai on n'est pas d'accord, regardez dans la province orientale.
Vous clôturez par là.
J'écoute parce qu'il y a des problèmes d'abord communautaires qu'il faut régler. Parce que si on ne règle pas ça, ce sera la guerre, ce sera le sang qui va couler. Alors, allons-y doucement. Ça veut dire, laissez d'abord le temps au temps. Le Mitran disait, le temps ne pardonne pas celui qui travaille contre lui.
Jean-Pierre Kayembe, un mot par rapport aux priorités.
Oui, priorités. Vous avez les découpages, vous avez les élections. Tous les deux éléments sont prioritaires, à mon avis, et surtout constitutionnels. Donc, je ne vois pas de problème. Dès lors
comme
que
je disais, une priorité n'exclut pas l'autre.
Oui, à mon avis, parce que le gouvernement qui est censé mobiliser les fonds pour aussi bien l'organisation des élections et la mise en œuvre de ces découpages nous dit que tout peut aller. Je ne vois pas pourquoi.
Allons-y donc.
Oui, allons-y. Alors, on va juger au pied du mur les mensonges.
Nous allons également à notre deuxième thème de ce soir. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va faire avec le sit-in organisé lundi dernier à la primature par une quarantaine d'enseignants docteurs à thèse des instituts universitaires de la RDC a été brutalement dispersé par la police. Cette délégation voulait s'enquérir de l'évolution du dossier de paye de leur salaire. Ces enseignants d'université réclament depuis plusieurs années pour certains et plusieurs mois pour d'autres leur salaire impayé. Suivez le témoignage de l'un des professeurs au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous sommes venus pour nous rassurer. Le contrôle est terminé. Est-ce que nous serons payés d'ici le mois de juillet? Parce que le contrôle est trimestriel. Mais dommage, quand nous arrivons à la primature, personne ne veut nous recevoir. Le Durkaba, le premier ministre qui nous envoie le message, qui nous attendait, il va nous répondre. La réponse qui est arrivée, c'est une dupe de police qui arrive plein à mort avec des armes et des munitions comme si on était dans la zone de guerre. Comme vous l'avez remarqué, si vous étiez aux environs, ils nous ont poussé jusqu'à l'avenue 24 novembre. Mais nous sommes venus sans armes, sans quoi? Nous avions nos toges comme arme pour réclamer tout simplement de voir la liste et avoir des assurances du Premier ministre qui est l'autorité des pays qui nous rassure suivant nous. Parce que nous avons des blessés, nous avons des gens qui ont perdu des appareils, qu'on se retrouve d'abord dans nos institutions, on va se reconcerter et nous verrons ce que nous pouvons faire à la prochaine étape. Après le Premier ministre, il y a d'autres personnes. Peut-être lui-même après, il peut penser parce qu'ils ont nos références, ils ont nos adresses, peut-être qu'ils peuvent nous appeler, nous envoyer notre délégation pour le rencontrer. Au cas contraire, nous irons encore plus loin.
Jean-Pierre Kayembe, vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA, un média émettant à Kinshasa. Comment vous analysez ce genre de cas?
Merci beaucoup Alain. Je sais que les libertés de manifester ou encore d'intégrer un quelconque syndicat pour exprimer son point de vue, ces types de libertés sont constitutionnelles, garanties par notre constitution. Il est normal que quiconque se sent lésé ou trouve que ses droits sont bafoués, qu'il manifeste sa désapprobation. Je connais personnellement les cas de ce professeur. J'en connais, il y en a un d'ailleurs qui a observé il y a quelques semaines passées une grève de la faim et consort. Mais je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut laisser les dossiers suivre son cours normal. Ce n'est pas à force de trop faire pression, à force de descendre dans la rue que les choses vont s'arranger. Je sais que pour arriver à l'étape voulue par ces professeurs, il y a des préalables, il y a des étapes qu'il faut parcourir. Les dossiers étaient peut-être à la primature, envoyés au ministère, je sais pas, de la fonction publique, de l'ESU, ou encore parce que
budget,
il y a beaucoup de ministères qui doivent travailler sur ces dossiers. Donc les professeurs font pression, c'est normal, c'est de leur droit. Mais attention, quand ça commence à troubler assurer l'ordre public, il est dans le devoir des forces de sécurité de pouvoir repousser les manifestants, parce que comme vous le savez, la primature c'est un site stratégique et on ne peut pas admettre qu'il y ait des manifestations.
Il n'était là qu'avec l'air tauge, hein, en passant.
Ça, c'est ce qu'il vous dit. Comme je n'étais pas sur les lieux du fait, je ne peux pas confirmer ou infirmer, mais je sais néanmoins que la police n'intervient qu'en cas de force majeure. Quand on vous dit reculer et que vous ne voulez pas, on amène juste la police. Mais quand il dit que c'était une escouade de policiers, je ne partage pas son avis parce que je connais la primature et voilà.
Fidèle Moussangou, vous êtes journaliste et coordonnateur au journal Le Phare. Jean-Pierre Kayembe insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas que ces professeurs, ces nouveaux professeurs agissent dans la précipitation, mais ces genres de réactions n'hypothèquent-elles pas la relève en ce qui concerne le corps professoral en RDC?
Écoutez, ce n'est pas si mal qu'au professoral. Moi, c'est ce que je déplore, je condamne, je dénonce, c'est cette, toujours ce comportement de violence gratuite. Vous utilisez les armes contre les gens qui sont mains nues. Un professeur n'a pas d'armes que ça. Son stylo et la craie et la bouche. Bon, un prod, ils viennent revendiquer leurs droits. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec Mathieu? On aurait pu avoir une délégation. Faites-nous 5 personnes, nous allons les recevoir. L'affaire s'est terminée par là. Les professeurs n'ont pas utilisé les muscles. Les gens sont vieux. Certains sont plus âgés que moi. Moi, j'ai plus de 60 ans. Vous me bousculez, mais si je meurs, vous avez gagné quoi, monsieur? Vous tuez un Congolais? Vous êtes fier avec ça? C'est ça le comportement que je déplore. C'est Kibisto dont tu parles, Lopez. Il t'allait réclamer. Il avait un rendez-vous. Il arrive chez un conseiller. Après, il se voit entouré par des policiers qui le soulèvent, qui le déshabillent même, le tabassent, et ils vont le jeter là. On l'a pris comme un fou, professeur d'université, docteur d'État. Jusque là, la Cour suprême. Il a fait une grève. Il revendiquait son droit. Pourquoi l'avoir brutalisé? Et on brutalise à la primature. Oui, c'est une honte quand même qu'à la primature, on puisse faire couler le sang des Congolais. Alors, ici, ils viennent, ils ont fait, monsieur, d'accord, faites une négation à 5 personnes, le premier vous y recevra, il peut consacrer 30 minutes. Et puis, il y a un sentiment, voilà, votre dossier suit son cours, nous vous tendons au courant. Il n'y a que ça. Et puis, il peut leur donner un verre de bière ou bien un verre de coca.
Mais dans ces cas, la police n'a pas utilisé les armes pour les
protéger les manifestants. J'étais là, je suis passé, je suis arrêté. On les a tabassés. Il y a certains qui ont perdu des lunettes, des appareils. Et puis, j'ai dit, on a même volé leurs appareils téléphoniques.
Voilà. Charles Kipingani, vous êtes éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît Tamatabi dans la province du Congo central. Je demandais tout à l'heure à Fidel si ce genre de réaction n'allait pas décourager les autres professeurs qui sont à l'étranger de revenir au pays.
Par rapport à la situation des professeurs, moi je pense que je les ai dit au point de la primature, en début de la semaine, quand je me rendais au cabinet du Premier ministre pour déposer les journaux. À mon humble avis, je n'ai pas vu un aspect de violence dans le chef de ces professeurs qui étaient habillés en toge. Mais ce que je peux constater, c'est que nous ne sommes pas le premier pays au monde à organiser des sit-ins et consorts. Mais là où il y a des problèmes, c'est lorsque cela devient un mode de vie dont l'État ne peut agir à l'issue des violences. Et par contre, qualité de manifestation ou sinon de réclamation de ce genre-là. Les gens qui se retrouvaient dans leurs droits, qui pensaient que leurs droits étaient bafoués, leurs droits garantis, comme on dit, mais garantis par la Constitution, et dès qu'ils sont dans le chemin ou dans l'acheminement de ces droits-là, je ne vois pas en quoi ils seraient touchés. Et il faut repousser ce genre de manifestation. Je crois que je ne suis pas de service de sécurité, mais au moins, c'est le gaz de lacrymogène qui est toujours utilisé en cas de violence. Mais tel que moi je vis ces professeurs-là, ils n'étaient pas en position des gens qui faisaient et réclamaient quelque chose avec violence. Mais aussi un autre aspect qu'il faut ajouter à cette question, c'est qu'on doit savoir respecter les engagements. Si ces gens ont quitté leur lieu de travail pour venir réclamer, c'est qu'ils ont senti qu'il n'y avait pas respect du droit ou sinon respect des engagements. Et dès lors qu'on n'a pas respecté les engagements, il faut que la partie adverse puisse le réclamer par les moyens constitutionnels. Et je crois qu'ils l'ont fait par les moyens constitutionnels. Il faut que nous apprenions et nous ayons cette culture-là.
de répondre de manière pacifique à ceux qui réclament leur droit qui n'est que garanti par la loi.
Alors, Charles, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Une petite conclusion.
Et une petite conclusion par rapport à toutes les questions que nous avons pu traiter. Et pour ce qui est de la province orientale, si je peux vous parler là, je crois que les députés provinciaux doivent s'apaiser un peu, attendre le moment venu, ils seront réélus parce qu'ils sont en train de s'agiter par rapport à leur fin de mandat, à leur mandat qui arrive à la fin, à leur doublon de mandat qui existe. Ils ne doivent pas comprendre, donner, inculquer dans les têtes des populations ou de la population congolaise, c'est croire qu'il y a une province de l'Italie ou de l'autre pays. Donc ils doivent attendre le moment venu pour qu'ils puissent brandir leurs moyens de défense lorsque la caution ne sera pas une fois de plus respectée comme on a toujours fait avec la répartition de recettes.
Merci, ça.
C'est la répartition des 40% qui devrait venir au point. Si cela sera encore le cas, et là, ils pourront encore brandir leurs moyens et puis revenir à la table des négociations s'il faut négocier. Et puis,
merci.
Ils veulent tous les moyens qu'il faut.
Merci,
par rapport
ça.
À la dernière, oui, par rapport à la... Allô.
Merci Charles, je vous prie de vous arrêter par là. Jean-Pierre Kayembe, votre conclusion, Charles disait tout à l'heure qu'il fallait que l'État congolais apprenne à respecter également ses engagements.
Oui, c'est normal, Charles a raison, je l'ai dit tantôt, qu'il est normal que l'on proteste ou que l'on manifeste son indignation quand on n'est pas d'accord ou quand ses propres droits sont violés. Mais il y a des modalités, il y a une façon de les faire, pas faire des sit-ins pratiquement une habitude. Ces dossiers qui, au niveau de la primature et au niveau d'autres ministères concernés, en train de suivre son cours normal, les professeurs ont intérêt à s'adresser au niveau de ces ministères, pour constituer une délégation qui peut donc être entrer en contact avec
ces
ministères.
En passant, ça fait 3 ou 4 ans que plusieurs d'entre eux attendent leur salaire. Ça suit toujours le cours normal.
Oui, je ne connais pas les dossiers personnels de chacun de ces professeurs, mais il faut reconnaître que c'est un processus. Ce n'est pas que vous terminez aujourd'hui et demain matin, vous retrouvez dans les listings et consorts. Ça prend du temps. Et donc, il faudra qu'ils prennent encore leur mal en patience, justement, que leurs dossiers seront régularisés d'ici là.
Fidèle Moussangou, conclusion.
Non, écoutez, c'est déplorable qu'un État, qu'un gouvernement ne puisse pas prévoir que non, il y aura autant de professeurs à thèse qui vont sortir cette année. Parce que quand quelqu'un va présenter une thèse, il le fait avec l'aide du gouvernement. Et puis c'est automatique. Thèse, 2 semaines après, il a son argent. C'est parce qu'il y a la mauvaise foi dans le chef de certaines autorités qui le font exprès. Azuid aussi a fendé Liango. Parce qu'il ne veut pas. Il a compte réglé avec des professeurs. Ou bien, lui-même n'est pas professeur, il a été refusé.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. C'est fini pour la tribune de la presse de ce jour. Réalisation Kevin Couté, mise en onde Alain Goy, supervision Martin Sebou-Jangwe, présentation et coordination Alain Roumouchich. Au revoir.